Donc, nous allons commencer aujourd'hui véritablement le programme de cette année. Et dans cette première séance, je voudrais parler des propriétés de cohérence d'un condensat. Dans le cours suivant, je passerai aux propriétés de cohérence d'une paire de condensats. Je commence, si vous voulez bien, par une brève introduction, expliquer un petit peu les problèmes que je compte aborder. Le mot cohérence est utilisé dans de nombreux sens, et on peut déjà se poser la question suivante: en quel sens peut-on dire qu'un condensat est un objet cohérent? De manière plus précise, quelle propriété le différencie d'un nuage thermique d'atomes? Autre exemple de question: peut-on parler de la phase d'un condensat? Plus quantitativement, quelles fonctions permettent de caractériser les propriétés de cohérence d'un condensat? Peut-on établir un parallèle avec le problème de la cohérence en optique qui a été considérablement étudié? Enfin, je voudrais également décrire quelques expériences qui ont abordé l'étude de ces problèmes. Donc, comme je l'ai dit au début, je vais m'imiter ici au problème d'un seul condensat. La semaine prochaine, j'aborderai le problème de la phase relative de deux condensats. Alors, commençons, si vous voulez bien, par quelques rappels sur la cohérence en optique. Transparent 26. Si je considère tout d'abord un champ optique classique, son champ électrique peut être décrit par la fonction E plus 2R et puissance moins I oméga t plus complexe conjugué, où E plus 2R, qu'on appelle la composante de fréquence positive du champ, est un nombre complexe ayant un module et une phase. Comme vous le savez, en physique classique, le champ électrique est une grandeur physique et on peut mesurer la phase d'un champ classique. Considérons maintenant le problème de l'état quantique d'un champ. Et pour simplifier, je vais supposer qu'il s'agit d'un champ monomode. Par exemple, le champ d'un mode d'une cavité électromagnétique. On peut passer en revue plusieurs types d'états quantiques d'un tel champ. Tout d'abord, les états à un photon, qu'on appelle les états de Fock. L'état le plus général du champ est, quant à lui, une superposition linéaire, somme sur n de 0 à l'infini, de CNn. Les grandeurs physiques quantiques sont représentées par des opérateurs, par exemple l'opérateur champ du mode peut s'écrire E de R opérateur égale E plus de R plus herbitique conjugué, où l'opérateur E plus de R peut s'écrire E rond plus de R l'opérateur A, où A est l'opérateur de destruction d'un photon, A croix l'opérateur adjoint étant l'opérateur de création, et E plus de R une certaine fonction classique qui représente l'amplitude du champ du vide dans ce mode. Si par exemple on prend l'intégrale de l'énergie électrique plus de l'énergie magnétique en prenant les fonctions E plus rond de R et B plus rond de R, on trouve 1 demi de H bar oméga par mode. Transparent T27. Une classe d'états qui sont particulièrement importants sont ce qu'on appelle les états cohérents, qui sont les états quantiques qui se rapprochent le plus possible de l'état classique. Je veux, si vous voulez bien, rappeler très rapidement quelques propriétés de ces états qui sont bien connus. Les états cohérents, alpha, sont les états propres de l'opérateur d'annihilation, A, avec la valeur propre alpha, où alpha est un nombre complexe. Leur développement, sur la base des états de Fock, N, s'écrit alpha égale E puissance moins alpha 2 sur 2, somme sur n de 0 à l'infini, de alpha à la puissance n sur racine de factoriel n, que multiplie l'état de Fock n. Le carré du module du coefficient de n représente la probabilité p de n d'avoir n photons dans l'état cohérent alpha, et se calcule immédiatement, on trouve p de n égale e puissance moins module d'alpha au carré, que multiplie module d'alpha à la puissance 2n, divisé par factoriel n. On reconnaît là une loi de Poisson, dont la valeur moyenne valeur moyenne de l'opérateur n, qui est la valeur moyenne de l'opérateur a croix a, égale alpha modulo carré, et la variance de n, delta n2, qui est la moyenne du carré de l'opérateur n moins le carré de la moyenne de l'opérateur n, on peut le calculer aisément, et on trouve que c'est égal à alpha 2, c'est-à-dire à valeur moyenne de n. Donc, delta n, l'écart type, est de l'ordre de racine carrée de la valeur moyenne de n. Et on voit tout de suite que si la valeur moyenne de n est très grande devant 1, l'écart type delta n est très grand en valeur absolue, puisque racine de valeur moyenne de n est très grand, tout en étant très petit en valeur relative. En effet, delta n sur valeur moyenne de n est égal à, est de l'ordre de 1 sur racine de valeur moyenne de n, et est très petit devant 1 si la valeur moyenne de n est très grande devant 1. Enfin, dernier point dont nous aurons besoin par la suite, les états cohérents alpha sont des états propres de l'opérateur partie de fréquence positive du champ électrique E plus de R. Comme E plus de R est une combinaison linéaire des opérateurs de création, et si je considère un champ monomode, E plus de R est tout simplement E plus de R rond que multiplie l'opérateur d'annihilation alpha, on en déduit donc, comme alpha est état propre de l'opérateur d'annihilation, l'égalité suivante, E plus de R agissant sur le ket alpha me redonne le ket alpha avec un coefficient petit alpha et rond plus de R. Si je sépare dans alpha son module qui est la racine carrée de la valeur moyenne de n et sa phase qui est puissance pi de r, je m'aperçois que alpha et rond plus de r peut s'écrire racine de n et puissance pi de r et plus de r, et c'est ça que j'appellerai la partie de fréquence positive d'un champ classique et classique de r. Tout ce que je viens de dire ici se généralise aisément à des champs multimodes. Transparent T28. Après avoir introduit les états cohérents, on peut maintenant songer à considérer des mélanges statistiques d'états cohérents. Posons alpha égale module de alpha et puissance phi égale racine de valeur moyenne de n et puissance phi. Et on peut songer à ce moment-là à faire un mélange statistique d'états cohérents de même module de alpha, mais de phase phi variant d'un état à l'autre. Plus précisément, je vais prendre une phase phi équipartie entre 0 et 2 pi. Je peux donc écrire pour un tel opérateur densité, rho chapeau égale 1 sur 2 pi, somme de 0 à 2 pi de d phi, ket, module de alpha puissance phi, bras, module de alpha puissance phi. Vous voyez donc qu'on fait une moyenne des projecteurs sur les états cohérents, moyenne sur phi entre 0 et 2 pi. Calculons les éléments de matrice de rho chapeau, et en particulier l'élément de matrice n rho chapeau n prime. On obtient aisément, pour un tel élément de matrice, l'équation suivante, 1 sur 2 pi, somme de 0 à 2 pi de d phi, la projection du ket alpha et puissance phi sur le bras n, qui s'écrit puissance moins alpha 2 sur 2, alpha module à la puissance n sur racine de factoriel n et puissance n phi, que multiplie la projection sur le ket n' du bras alpha et puissance phi, qui est égal à la puissance moins alpha 2 sur 2, alpha à la puissance n' sur racine de factoriel n' et puissance moins n' phi. En regroupant les termes, nous trouvons une intégrale sur l'angle phi, qui est égal à 1 sur 2 pi, somme de 0 à 2 pi de d phi et puissance i n moins n prime phi, qui se calcule immédiatement et qui vaut bien sûr delta n n prime, c'est-à-dire 1 si n égale n prime, 0 si n différent de n prime. En reportant un tel résultat dans l'équation précédente, je trouve que n rho chapeau n prime est égal à e puissance moins alpha 2, alpha à la puissance 2 n sur factoriel n, delta n n prime. Aux autres termes encore, l'opérateur rho chapeau s'écrit comme une somme de projecteurs sur les états n pondérés par les coefficients positifs p de n. Rochapeau apparaît ainsi comme un mélange statistique d'états de Fock n avec une distribution de Poisson pour les valeurs possibles de n. Transparent T29. Nous allons passer maintenant à une notion importante, qui est la notion de fonction de corrélation, qui va nous permettre de discuter de manière quantitative des propriétés de cohérence d'un condensat. Considérons d'abord, si vous voulez bien, la fonction de corrélation d'ordre 1, notée G1 RR' égale valeur moyenne de et moins de R et plus de R', où et moins et plus sont les composantes de fréquence négative et positive du champ. Ici, bien sûr, je suis toujours sur ces rappels de cohérence en optique et je m'intéresse aux fonctions de corrélation des opérateurs champ électrique. Une telle fonction G1 de RR' caractérise les corrélations qui existent entre les valeurs du champ électrique en deux points différents, RR' de l'espace. Une telle notion est importante, car même si la phase globale du champ n'est pas bien définie, la différence de phase en deux points peut l'être, et une telle fonction de corrélation permet de caractériser cette différence de phase. La fonction de corrélation que je viens d'introduire est une fonction quantique, et on peut considérer qu'elle généralise, en théorie quantique, les fonctions de corrélation classiques, bien connues en optique classique, et qui permettent de caractériser le contraste des franges d'interférence obtenu en faisant interférer les champs issus de deux points RR' différents. Évidemment, je me suis intéressé ici à des corrélations spatiales en deux points RR' différents. On peut aussi généraliser la notion précédente et introduire des fonctions de corrélation faisant intervenir deux instants différents, T et T'. Une normalisation, qui sera souvent utile par la suite, consiste à diviser G1, grand G1 de RR' par la racine carrée du produit de G1 RR par G1 R'R', et d'introduire donc la fonction de corrélation normée, petit G1 de R', qui est donnée par cette équation. Transparent, T30. Je passe maintenant aux fonctions de corrélation d'ordre 2. G1 que nous venons d'introduire, ne caractérise pas entièrement un champ. On peut très bien construire deux champs qui ont le même G1, mais qui ont des propriétés physiques différentes. Pour caractériser complètement un champ, il faut introduire en plus de G1 des fonctions de corrélation d'ordre supérieur, G2, G3, G4, etc. Par exemple, la fonction de corrélation d'ordre 2, G2 de R et de R', est égale à la valeur moyenne d'un produit de quatre opérateurs rangés dans cet ordre, et moins de R, et moins de R', et plus de R', et plus de R. Physiquement, on peut montrer que G2 RR' caractérise, permet de calculer la probabilité de détecter un photon au point R et un photon au point R'. Elle caractérise donc les corrélations d'intensité du champ en deux points différents de l'espace, R et R', et comme nous le verrons plus tard, la tendance des photons à se grouper. Si je fais R' égale R, j'obtiens G2 de R et de R, et qui, en quelque sorte, caractérise les fluctuations d'intensité en un point donné. De même que nous avons introduit des fonctions de corrélation normées pour G1, on peut introduire une fonction de corrélation normée d'ordre 2, petit G2 de RR', qui est égal à grand G2 de RR', divisé par G1 de RR fois G1 de R'R'. Et ainsi de suite, on pourrait définir une fonction de corrélation d'ordre 3, G3 de RR'R', qui est la valeur moyenne dans l'état du champ de et moins de R, et moins de R', et moins de R', et plus de R', et plus de R', et plus de R. Transparent T31. Je vais maintenant vous rappeler très brièvement, sans le redémontrer, parce que c'est bien connu et vous pouvez le retrouver dans de nombreux ouvrages d'enseignement, les résultats du calcul des fonctions de corrélation G1 et G2 dans quelques cas simples. Considérons d'abord, si vous voulez bien, le cas d'un champ gaussien. C'est ce qui se passe en particulier pour un rayonnement en équilibre thermodynamique de Maxwell-Boltzmann. On peut également trouver un champ gaussien lorsque on considère un champ qui résulte de la superposition de plusieurs champs indépendants, et le caractère gaussien du champ résultant résulte alors du théorème de la limite centrale. Les résultats importants qu'on trouve sont les suivants. On trouve tout d'abord que petit g1 de RR', la fonction de corrélation normalisée d'ordre 1, décroît de 1 à 0 quand le module de R-R' croît de 0 à l'infini, et cette décroissance s'effectue sur une distance caractéristique lambda c qu'on appelle la longueur de cohérence du champ. On peut à partir de là définir un volume de cohérence tel que les champs en deux points situés à l'intérieur de ce volume présentent une certaine cohérence l'un par rapport à l'autre. Par contre, si on prend les champs en deux points appartenant à deux volumes de cohérence différents, il n'y a aucune relation de phase bien définie entre ces deux champs. En ce qui concerne la fonction de corrélation normalisée d'ordre 2, petit g2 de R', on trouve qu'elle décroît de 2 à 1 quand le module de R-R' croît de 0 à plus l'infini, et sa décroissance s'effectue sur la même distance caractéristique lambda c que g1, car en effet, petit g2 de RR', on peut montrer que pour un champ gaussien, c'est égal à 1 plus module de g1 RR' au carré. Cette décroissance de g2 de la valeur 2 à la valeur 1, c'est ce qui est utilisé dans ce qu'on appelle l'effet Van Veerebraeck et Twiss, et elle caractérise aussi une tendance bien connue des photons, qui est la tendance au groupement. Si nous considérons maintenant, deuxième exemple, le cas d'un état cohérent, et je passe au transparent T32, un champ cohérent, comme je vous l'ai dit, un état cohérent alpha est un état propre, un quête propre de l'opérateur E plus de R, avec la valeur propre E classique plus de R, le bras alpha est un bras propre de l'opérateur E moins de R, avec la valeur propre E classique moins de R. E classique moins étant bien sûr le complexe conjugué de E classique plus. Si je me reporte maintenant à l'expression de grand G1 de RR', j'ai à prendre la valeur moyenne dans alpha de l'opérateur E moins E plus, et comme alpha est un état propre de E+, le quête alpha est un quête propre de E+, le bras alpha un bras propre de E-, j'en déduis immédiatement que G1 de RR' est égal au produit des deux nombres complexes E classique moins de R et classique plus de R', que multiplie alpha alpha, le produit scalaire de alpha par lui-même, qui est égal à 1 si je suppose alpha normé, de sorte que G1 de RR', c'est le produit des champs classiques en R, E classique moins de R, par le champ classique plus au point R'. Le même type de calcul permettrait de montrer que G2 de RR' est égal à un produit de 4 champs classiques, E classique moins de R, E classique moins de R', E classique plus de R', E classique plus de R. Comme il s'agit de nombres, ils commutent entre eux, et on peut faire apparaître le produit de l'intensité classique au point R, qui est E classique moins de R, E classique plus de R, que multiplie l'intensité classique en R', qui est le produit de E classique moins de R', E classique plus de R'. On voit ici de proche en proche que toutes les fonctions de corrélation d'ordre 1, 2, 3 se factorisent en produit de fonctions de R et de R'. Il s'agit là de la définition d'un champ cohérent qui a été donné la première fois par Roy Glauber. En considérant les fonctions de normaliser petit g1 et petit g2, on montre alors immédiatement que le module de G1 RR' est égal à 1, le module de G2 de RR' est égal à 1, et voyez maintenant qu'il n'y a plus d'effet Van Veerebraeck et Twiss. Transparent T33. Après ces quelques rappels donc sur la cohérence en optique, je passe maintenant au condensat de Bose-Einstein. Introduisons la notation Psi0. Psi0, ça va être l'état dans lequel sont condensés les atomes bosoniques qui forment le condensat. La fonction d'onde normée associée à l'état Psi0 sera notée Psi0 de R. En mécanique quantique, vous savez bien que la phase absolue d'une fonction d'onde, comme Psi0 de R, n'a pas de sens physique. Si je considère deux états décrits par les fonctions d'onde Psi0 de R et Psi0 de R que multiplie les puissances Iki, où Ki est un facteur de phase globale, ces deux fonctions d'onde décrivent le même état physique. En quelque sorte, il y a une certaine différence avec le champ optique qui, lui, a une limite classique et pour lequel la phase, en principe, a un sens physique. Si la phase absolue de la fonction d'onde ψ02R n'a pas de sens physique, par contre, la phase relative de ψ02R et de ψ0 à un autre point R', elle peut jouer un rôle important. Et nous allons le voir par la suite. Autre notation que je vais utiliser maintenant, les opérateurs A0 croix et A0 qui créent et détruisent respectivement un atome dans l'état ψ0 de R. Enfin, les opérateurs champs, ψ plus opérateur au point R et ψ opérateur au point R, qui créent et détruisent un atome au point R. Et comme vous le savez, on peut développer l'opérateur ψ de R en A0 et AI, où A0 et AI créent, plutôt détruisent un boson dans l'état ψ0 de R ou dans l'état ψi de R, ψi de R, l'ensemble ψi de R formant une base orthonormée d'état à une particule, bien sûr incluant l'état ψ0 de R, ce qui me permet d'écrire opérateur ψ de R égale A0, opérateur A0, que multiplie ψ0 de R, plus somme sur i différent de 0 de opérateur AI, fonction d'onde ψi de R. Transparent T34. Je vais maintenant introduire, comme je l'ai fait pour le rayonnement, un certain nombre d'états importants pour décrire un condensat. L'état le plus simple auquel on puisse penser est l'état de Fock N, qui représente un état où N bosons sont dans l'état ψ0 de R. On peut également introduire un état cohérent alpha, en introduisant formellement les états propres de l'opérateur d'annihilation A0 de valeur propre alpha égale module de alpha et puissance i phi. L'expression de l'état cohérent alpha sur la base des états n est tout à fait analogue à celle de l'homologue en optique et peut s'écrire état alpha égale e puissance moins alpha 2 sur 2 que multiplie somme sur n de 0 à l'infini, le module de alpha à la puissance n sur racine de factoriel n, et puissance in phi, que multiplie l'état de Fock n. On voit paraître ainsi, pour l'état cohérent alpha, une superposition d'états correspondant à des nombres différents de bosons, n. Quel est le sens physique d'un tel état? C'est un peu surprenant. Prendre un état qui est une superposition d'états de nombres de particules différents en mécanique quantique relativiste n'a pas de sens physique. En effet, toutes les observables physiques auxquelles on peut songer commutent avec l'opérateur n nombre de particules, de sorte que toutes les observables n'ont pas d'éléments non diagonales entre deux états n et n' correspondant à des nombres de particules différentes. De même, l'hamiltonien du problème et l'évolution dans le temps commutent avec n et ne peuvent pas faire apparaître des cohérences entre n et n' différents de n. On peut ainsi se limiter à étudier le système physique dans des sous-espaces séparés correspondant à des nombres bien définis de particules. C'est ce qu'on appelle des règles de supersélection. Avec un tel point de vue, il semble peu intéressant d'introduire les états cohérents alpha qui n'ont pas de sens physique. En fait, comme nous le verrons par la suite, les états alpha sont très commodes sur le plan mathématique et on peut non pas considérer un seul état cohérent alpha, mais considérer des mélanges statistiques gros chapeaux d'états alpha qui, eux, ont un sens physique. Et comme il est commode d'utiliser mathématiquement les états alpha, de tels mélanges statistiques conduiront à des calculs simples. Alors, je vais considérer, par exemple, ici, un mélange statistique gros d'états alpha, de même module de alpha, et de phase équipartie entre 0 et 2π. Et le même calcul que celui fait plus haut, pour les états cohérents en optique, montre qu'un mélange statistique au chapeau d'états cohérents alpha avec le même module de alpha et une phase phi équipartie entre 0 et 2π est un mélange statistique d'états de Fock, n, et lui a un sens physique. C'est un état de Fock avec une certaine probabilité, plus un autre état de Fock avec une certaine probabilité. Il n'y a aucune cohérence entre des états n et n' différents. transparent T35. Comme pour l'optique, on peut introduire... transparent T35. Nous allons maintenant, comme pour l'optique, introduire des fonctions de corrélation des opérateurs psi et psi croix pour les bosons. La fonction de corrélation G1 de R et R' est ainsi la valeur moyenne dans l'état étudié de l'opérateur psi croix de R que multiplie psi de R'. Une petite remarque. Un opérateur produit d'un opérateur de création par un opérateur d'annihilation en seconde quantification est toujours l'opérateur associé à un opérateur à une particule du formalisme habituel. On peut vérifier aisément que l'opérateur psi plus de R, psi de R', c'est l'opérateur en seconde quantification qui est associé à l'opérateur à une particule, somme sur I égale 1 à N, qui numérote les particules, de le ket I de R, que multiplie le bras I de R', de sorte que on peut alors facilement se convaincre que G1 de R et R' n'est autre que N le nombre de particules, que multiplie l'élément de matrice entre R' et R de l'opérateur ρ1, où ρ1 est l'opérateur densité à une particule. De même qu'en optique, on peut introduire à partir de grand G1 une fonction de corrélation normalisée petit g1, petit g1 de R', qui est g1 de R' divisé par la racine carrée de g1 de RR, g1 de R'R'. Considérons aussi maintenant la fonction de corrélation d'ordre 2, g2 de RR', qui est la valeur moyenne dans l'état étudié de psi croix de R, psi croix de R', psi de R', psi de R. Et la fonction normalisée, qui est cette fonction G2 divisée par le produit de G1 RR par G1 R'R'. Et ainsi de suite, on peut définir G3 de R, R', R', qui est la valeur moyenne de psi croix de R, psi croix de R', psi croix de R', psi de R', psi de R', psi de R, et la fonction normalisée petit G3, qui est ce qu'on obtient en divisant la fonction précédente par le produit des trois fonctions G1 RR, G1 R' R', G1 R' R'. Transparent T36. Un calcul très simple à faire est celui qui consiste à étudier les fonctions de corrélation précédentes lorsque l'état du système est un état de Fock N. N boson dans le même état Psi0 de R. Je vous rappelle qu'un tel état de Fock N est un état qui correspond à la description du condensat dans une théorie de champ moyen, Psi0 de R étant la solution de l'équation de Gross-Pitaïsky. On peut bien sûr écrire N sous une forme plus commode parfois, qui est état L égale 1 sur racine de factoriel N, opérateur de création A0 croît à la puissance N, agissant sur l'état 0 qui représente le vide de particules. Si je considère maintenant les opérateurs champs, psi de R égale sigma sur I égale 0 à l'infini de AI psi de R, et psi croix de R somme sur I égale 0 à l'infini de AI croix psi étoile de R, où AI et AI croix sont les opérateurs de destruction et de création d'une particule dans l'état psi de R, état psi de R faisant partie d'une base orthonormée complète. Si maintenant je me souviens que AI et AI croix avec I différent de 0 commutent avec A0 et A0 croix, on peut remplacer bien sûr psi de R par A0 psi 0 de R et psi croix de R par A0 croix psi 0 étoile de R dans le calcul de G1, G2, G3, etc. lorsqu'on s'intéresse à un système de bosons dans l'état N, où N est relatif à l'état psi 0. En effet, comme les opérateurs sont rangés dans l'ordre normal et que les AI avec I différent de 0 commutent avec A0 et A0 croix, on fait apparaître AI, si on garde les AI psi de R dans le développement de psi de R et les AI croix psi étoile de R dans le développement de psi croix de L. On peut faire commuter les AI avec les A0 croix qui apparaissent dans l'expression de L et faire apparaître AI agissant sur le vide qui donne 0 et AI croix agissant sur le bras 0 qui donne 0, de sorte qu'on peut à ce moment-là complètement ignorer les termes AI AI croix avec I différent de 0. Transparent T36. Alors, le calcul de G1 est alors très simple. Si on ne garde que les termes A0 et A0 croix, on trouve immédiatement, en faisant sortir les nombres Psi0 de R' et Psi0 étoile de R de l'élément de matrice, que G1 de R', c'est le produit Psi0 étoile de R, Psi0 de R', que multiplie l'élément de matrice de A0 croix A0 dans l'état N, qui n'est autre que N, le nombre de particules. Donc G1 de R', ce n'est rien d'autre que N fois Psi0 étoile de R, Psi0 de R'. Quant à G2, également en faisant sortir les fonctions d'onde qui sont des nombres de l'élément de matrice, on fait apparaître G2 de R' égale Psi0 étoile de R, Psi0 étoile de R', Psi0 de R', Psi0 de R, la valeur moyenne dans l'état N de l'opérateur A0 croix, A0 croix, A0, A0. Et là, c'est très simplement en utilisant l'action de A0 sur N, qui est racine de N, N-1, puis une deuxième fois l'action de A0 sur N-1, qui est racine de N-1, N-2, on fait apparaître pour cet élément de matrice la valeur N-1 que multiplie la norme de N-2, le carré de la norme de N-2, qui n'est autre que 1, donc N-1. Finalement, G2 de R' est égal à N-1, module de Psi0 de R au carré, module de Psi0 de R' au carré. Si maintenant, je prends la fonction de corrélation normalisée, petit g2, qui divise cette fonction par g1 de rr, qui est n psi0 de r en modulo carré, et g1 de r', qui est n psi0 de r' en modulo carré, je vois apparaître petit g2 de rr' égale nn-1 sur n2, qui est égal à 1-1 sur n, qui est très voisin de 1 si n est très grand devant l'unité. Le calcul de G3 se fait suivant le même principe. On trouve que G3 de R', R seconde, c'est le produit de 6 fonctions d'onde, Psi0 de R étoile, Psi0 étoile de R', Psi0 étoile de R seconde, Psi0 de R seconde, Psi0 de R', Psi0 de R, que multiplie la valeur moyenne dans l'état N de l'opérateur A0 croix au cube, A0 au cube, dont on se convainc aisément qu'il est égal à N, N-1, N-2, et je trouve à ce moment-là que G3 de R', R seconde, c'est N, N-1, N-2, Psi0 de R en modulo carré, Psi0 de R' en modulo carré, Psi0 de R seconde en modulo carré. Et en divisant par G1 de RR, G1 de R', G1 de R seconde, je trouve que petit G3 de R, R', R seconde, c'est N, N-1, N-2 sur N3, c'est-à-dire 1-1 sur n, que multiplie 1-2 sur n, qui est très voisin de 1, là aussi si n est très grand devant 1. Transparent T38. Nous passons maintenant à un paragraphe suivant concernant la fonction de corrélation G1. Je voudrais en fait, dans ce nouveau paragraphe, étudier la longueur de cohérence pour un gaz de boson en équilibre thermodynamique. Je vais me limiter tout d'abord au cas de boson dans une boîte de volume L³. Dans un tel potentiel, on peut introduire une base autonormée d'état, qui sont des ondes planes, psi de R égale 1 sur L puissance 3,5 et puissance IKIR, où les KI satisfont à des conditions limites périodiques sur les parois de la boîte. Les opérateurs champ, psi, chapeau et psi, chapeau, croix, s'écrivent simplement 1 sur L 3,5 somme sur K de l'opérateur AK et puissance IKR pour psi, chapeau, et 1 sur L 3,5 somme sur K de AK, chapeau, croix et puissance moins IKR pour psi, croix, chapeau. Rappelons l'expression de G1, G1 RR', c'est la trace du produit de l'opérateur densité d'équilibre, rho-équilibre chapeau, qui multiplie psi croix de R, psi de R'. Remplaçant psi et psi croix par leur expression en fonction des AK et AK croix, on obtient aisément G1 de R', R' égale somme sur K de 1 sur L cube et puissance IK scalaire R'-R, trace de valeur moyenne en haut d'équilibre de AK croix AK, qui n'est autre que la valeur moyenne du nombre de bosons dans l'état K. Vous remarquez qu'il n'apparaît pas ici de terme de la forme AK prime croix AK avec K prime différente K. Ceci est une conséquence de l'invariance de par translation de l'opérateur densité d'équilibre qui entraîne que AK prime croix AK en valeur moyenne est nul si K prime différent de K. De sorte que G1 ne dépend en fait que de la différence R-R' et ne dépend pas séparément de R et de R'. Bon, tout ceci est général encore. L'opérateur densité d'équilibre pour l'ensemble grand canonique s'écrit sous la forme 1 sur ZG, où ZG est la grande fonction de partition, exponentielle moins bêta, H moins mu n, où H est l'opérateur hamiltonien et n l'opérateur nombre de particules. H, l'hamiltonien, l'opérateur hamiltonien, s'écrit somme sur K de H barre de K2 sur 2m AK croix AK, énergie cinétique, plus V interaction, l'énergie d'interaction des particules. Si on se limite à un gaz parfait, V interaction est bien sûr nulle. Transparence T39. Supposons précisément que nous avons affaire à un gaz parfait, c'est-à-dire que l'énergie est simplement l'énergie cinétique. À ce moment-là, le nombre moyen de bosons dans l'état K est donné par la formule bien connue Z et puissance moins bêta epsilon K sur 1 moins Z et puissance moins bêta epsilon K, où Z égale et puissance bêta mu et la fugacité, epsilon K égale h bar de K2 sur 2m et l'énergie cinétique de l'état K, et bêta est égal à 1 sur KBT où KB est la constante de Boltzmann. Revenant à l'expression de NK, on peut développer en série la fraction 1 sur 1 moins Z et puissance moins bêta epsilon K, ce qui est possible puisque Z et puissance moins bêta epsilon K est plus petit que 1, et on obtient valeur moyenne de NK égale somme sur L de 1 à l'infini, de Z à la puissance L, et puissance moins L bêta epsilon K. Je rappelle que G1 de R'. C'est 1 sur L cube, somme sur K de valeur moyenne de NK et puissance IK scalaire R' moins R. Pour calculer cette somme discrète, on a souvent envie de remplacer la somme sur K par une intégrale, mais ce faisant, on sait bien qu'on élimine la contribution de K égale 0, puisque la densité d'état, qui apparaît lorsqu'on remplace la somme discrète par une intégrale, s'annule précisément pour K égale 0. Pour ne pas omettre la contribution de l'état k égale 0 qui peut devenir macroscopique, on sait bien qu'il faut séparer la contribution de k égale 0 du reste, et ce reste peut lui être approximé par une intégrale étendue jusqu'à 0. En procédant de la sorte, on peut réécrire g1 de r moins r' sous la forme n0 sur l3, où n0 est la population de l'état fondamental, plus 1 sur 2 pi cube, somme de d3k, et puissance ik scalaire r' moins r, somme sur L de 1 à l'infini, de Z à la puissance L, et puissance moins L bêta H bar de K2 sur 2M. On voit ici apparaître les transformées de Fourier de gaussienne de la forme et puissance moins L bêta H bar de K2 sur 2M, et on sait bien que la transformée de Fourier d'une gaussienne est une gaussienne, et un calcul élémentaire permet à ce moment-là de réécrire G1 de R moins R' sous la forme N0 sur L3, plus 1 sur lambda t au cube, somme sur L de 1 à l'infini, de ZL sur L puissance 3/2, et puissance moins pi, R moins R' au carré, sur L lambda t carré, où lambda t est la longueur d'onde de De Broglie thermique, que nous avons déjà rencontré à plusieurs occasions, égale à racine de 2 pi h bar 2 sur m kbt. Si on fait enfin R égale R', on obtient G1 de RR, égale la densité de particules au point R, égale à N0 sur L3, l'exponentielle à ce moment-là se réduit à l'unité, et on obtient N0 sur L3 plus 1 sur lambda t cube, somme sur L de 1 à l'infini, de Z à la puissance L sur L puissance 3/2. Par ailleurs, la densité est uniforme et peut également s'écrire sous la forme N, où N est le nombre total de particules divisé par le volume L cube de la boîte. Transparent T40. À partir de cette expression, nous allons maintenant étudier comment G1 de R et de R' évolue lorsque, à température T fixée, on augmente progressivement le nombre de particules N. Partons tout d'abord d'un gaz très dilué, tel que rho, la densité, que multiplie lambda T cube, soit plus petit que 1, très très petit devant 1. Rho, je vous rappelle, est la densité de particules, N sur L3. Si le gaz est très dilué, on sait que la fugacité Z est très petite devant 1, et que le nombre de particules dans l'état 0, K égale 0, est microscopique et complètement négligeable devant grand N. On peut donc négliger dans l'expression de rho N0 sur L3, et obtenir rho de R égale N sur L3, à peu près égal à 1 sur L lambda T au cube, somme sur L de 1 à l'infini de Z à la puissance L sur L puissance 3/2. On voit apparaître ici la fonction de Bose G 3/2 de Z, et il est possible alors d'écrire rho de R égale 1 sur lambda T cube G 3/2 de Z. Quand Z est très petit devant 1, G 3/2 de Z est équivalent à Z, et l'équation précédente donne N sur L3 à peu près égal à Z sur lambda T cube, de sorte que Z est à peu près égal à lambda T cube N sur L3. Revenons alors à l'expression de G1 de R-R'. Dans cette expression, on peut, comme ici, négliger N0 sur L3 et ne garder que le terme L égale 1 dans la série somme sur L de 1 à l'infini de Z à la puissance L. On obtient alors G1 de R-R' à peu près égal à Z sur lambda T cube et puissance moins pi R-R' au carré sur lambda T carré. En utilisant l'expression écrite plus haut de Z, on réécrit ceci sous la forme n sur l'L3 et puissance moins pi r moins r' au carré sur lambda t carré. On obtient ainsi le résultat correspondant à un gaz parfait classique de Maxwell-Boltzmann. La courbe donnant g1 de r moins r' en fonction du module s de r moins r' est une gaussienne, partant à l'origine de n sur L3, la densité, et ayant une largeur à 1 sur E, égale à lambda t sur racine de pi, où lambda t est la longueur d'onde de Broglie thermique. Transparent T41. Supposons maintenant qu'on augmente N, tout en restant en dessous de la densité critique. N reste toujours négligeable, mais maintenant Z croît, et on ne peut plus négliger les termes L supérieur à 1 dans la série somme sur L de 1 à l'infini de Z à la puissance L. On voit alors que G1 de R-R' est une somme de gaussiennes dont les largeurs croissent comme lambda t sur racine de pi, lambda t racine de 2 sur racine de pi, lambda t racine de 3 sur racine de pi, etc. On en conclut que quand n croît, la largeur de G1 de R-R' croît. Supposez maintenant qu'on atteint le régime critique, rho critique multiplie lambda t cube égale 2.612, on a alors Z égale 1, mais on peut toujours négliger N0 qui n'a pas encore commencé à croître et faire Z égale 1 dans la série somme sur L de 1 à l'infini. Ce qui donne, pour G1 critique de R-R', l'expression suivante, 1 sur lambda T cube, somme sur L de 1 à l'infini, de 1 sur L puissance 3/2, et puissance moins pi R-R' au carré sur L lambda T carré. On obtient ainsi une courbe qui ne dépend que de lambda T, et qui est en quelque sorte universelle. Si on fait R' égale R, on obtient G1 critique de RR égale 1 sur lambda T cube somme sur L de 1 à l'infini de 1 sur L puissance 3/2, qui n'est rien d'autre que 2.612 sur lambda T cube, et on retrouve bien la densité critique rho critique. Transparent T42. Avant d'aller plus loin, il est intéressant de s'arrêter un peu et d'essayer de comprendre le comportement asymptotique de G1 de R-R' pour les grandes valeurs de R-R', c'est-à-dire quand R-R' égale S est très grand devant la longueur d'onde de De Broglie thermique lambda T. Revenons à l'expression de valeur moyenne de Nk. Nk égale Z et puissance moins bêta epsilon k sur 1 moins Z et puissance moins bêta epsilon k. Et ne faisons pas ici le développement en puissance de Z. Comme G1 de S est la transformée de Fourier de Nk, le comportement de G1 de S au grand S est déterminé par celui de Nk au petit k. Je rappelle que εk n'est rien d'autre que l'énergie cinétique h bar 2k2 sur 2m. On peut alors faire un développement de NK au voisinage de K égale 0 en réécrivant NK sous la forme Z sur E puissance moins bêta H bar 2K2 sur 2M moins N et en faisant un développement limité de l'exponentielle. Ce qui donne, lorsque K tend vers 0, NK équivalent à Z sur 1 moins Z plus bêta H bar 2K2 sur 2M, c'est-à-dire encore Z sur bêta H bar 2 sur 2M que multiplie 1 sur K2 plus KC carré où KC carré est égal à 1 moins Z sur bêta H bar 2 sur 2M, c'est-à-dire encore 4 pi 1 moins Z sur lambda T carré. Ainsi, le comportement au grand R moins R prime de G1 de R moins R prime est donné par la transformée de Fourier de 1 sur K2 plus KC carré, qui est bien connu. Si Z est plus petit que 1 de sorte que KC carré n'est pas nul, on a une courbe de type Yukawa et on trouve que G1 de S pour S très grand dans lambda T est à peu près égal à une puissance moins S, racine de 4 pi à moins Z sur lambda T divisé par S. Par contre, pour Z égale 1, KC carré est égal à 0. Il faut alors considérer la transformée Fourier de 1 sur K2 qui n'est autre qu'une loi coulombienne 1 sur S. Transparence T43. Ainsi, on voit que au-dessus du seuil, quand Z est plus petit que 1, la somme de la série de gaussienne et puissance moins pi S2 sur L lambda T carré avec L égale 1, 2, 3 tend vers une courbe de Yukawa en et puissance moins gamma S sur S avec gamma égale lambda T sur racine de 4 pi à moins Z. Quand on atteint le seuil, Z égale 1 et la somme de la série de gaussienne tend vers une courbe en 1 sur S. À ce moment-là, toute échelle de longueur disparaît du problème puisqu'on a une loi de puissance et la portée des corrélations spatiales devient anormalement grande. Transparent T44. Toutes ces considérations peuvent être rendues plus quantitatives par une étude numérique de G1 critique de S. J'utilise ici des résultats de calcul numérique faits par Yvan Castin. La courbe suivante donne que la gaussienne tend très vite vers 0, alors que G1 critique, qui a un comportement en 1 sur S, a une aile qui va très très loin. Transparent T45. Supposez maintenant qu'on dépasse la densité critique, ρ est supérieur à ρ critique. Dans ce cas, N0 n'est plus négligeable, et S, Z, la fugacité, reste égale à 1. L'expression de G1 de R moins R' s'écrit alors N0 sur L3 plus le terme suivant qui est le terme la somme de gaussienne avec Z égale à 1 qui n'est autre que G1 critique de R moins R'. Si je porte une telle courbe en fonction de S, on voit ainsi apparaître une courbe G1 critique de S de hauteur ρ critique qui s'ajoute à un fond plat égal à N0 sur L3. L'ordonnée à l'origine de G1 de S étant égale à N sur L3. Ainsi, on voit apparaître maintenant une courbe qui ne tend plus vers 0 quand S tend vers l'infini. Toute augmentation de N à partir du régime critique se répercute intégralement sur N0. Rho critique ne change pas, le fond plat augmente et la bosse reste inchangée avec la même amplitude. On voit ainsi apparaître, et c'est ce qui est le point là le plus important, une longueur de cohérence infinie lorsque le condensat apparaît. Le condensat est donc le siège d'un ordre à très longue portée, à portée infinie. Transparent T46. Dans le transparent suivant, nous avons reporté les fonctions de corrélation normalisées, petit g1 de r moins r' égale g1 de r moins r' divisé par G1 de 0, G1 de 0, racine carrée. Pour un gaz très dilué, on obtient simplement la gaussienne et puissance moins pi R moins R' au carré sur lambda T carré, qui part de 1 pour S égale 0. Et pour un gaz très dense, on voit apparaître une courbe qui part de 1 pour S égale 0 et qui tend vers 1 moins ρ critique sur ρ quand S tend vers l'infini et on voit apparaître donc une courbe avec une petite bosse d'amplitude rho critique sur rho qui tend vers zéro lorsque rho tend vers l'infini. Transparence T47. Jusqu'ici, nous avons négligé l'effet des interactions. Essayons d'évaluer cet effet en se limitant au cas T égale 0 degré, où on peut valablement utiliser l'approche de Bogoliubov pour aller au-delà de l'approximation du champ moyen. L'expression générale G1 de R-R' reste toujours valable, et on peut écrire N0 sur S3 plus sigma sur K différent de 0 de AK croix carré AK croix AK sur L3 qui multiplie puissance IK R-R'. Mais maintenant, les valeurs moyennes AK croix AK sont les valeurs moyennes de l'opérateur AK croix AK dans l'état fondamental Ψ0 tilde qui est le nouvel état fondamental perturbé sous l'effet des interactions. Et comme vous le savez bien, comme nous l'avons vu l'an dernier, et comme je l'ai rappelé au cours précédent, ces AK croix AK moyens ne sont plus nuls qu'en cas différent de 0, non pas à cause des excitations thermiques, puisque nous sommes ici à T égale 0 degré, mais à cause des collisions élastiques qui peuplent les états K différent de 0, même au 0 absolu. C'est là le phénomène que nous avons appelé la dépression quantique du condensat. Et comme je l'ai démontré l'an dernier, on sait que la somme sur K différent de 0 de AK croix AK, c'est le nombre total de particules qui sont en dehors de l'état K égale 0, et dont la valeur relative est de l'ordre de ρ A cube à la puissance 1/2, où ρ est la densité de particules et A la longueur de diffusion. On voit ici que en valeur relative, la dépression quantique du condensat est très petite pour un milieu très dilué pour lequel ρ A cube est très petit devant 1. Transparence T48, on peut calculer précisément la quantité somme sur K différent de 0 de 1 sur L3, valeur moyenne de AK croix AK et puissance IK scalaire R'-R. Pour cela, on part de l'expression de AK et AK croix en fonction des opérateurs BK et BK croix qui détruisent et créent une excitation élémentaire du système en présence d'interaction. Vous vous rappelez que AK est égal à UK BK croix moins VK B moins K, et une expression adjointe pour AK croix, et que le nouveau vide, Ψ0 tilde, est un état propre de BK de valeur propre 0. On peut donc écrire BK opérateur agissant sur le nouveau vide Ψ0 tilde égale 0, et une équation analogue pour l'adjoint. Utilisant ces résultats, on peut alors immédiatement montrer que G1 de R-R' est égal à N0 sur L cube, plus 1 sur L cube, somme sur K différent de 0, de VK carré et puissance IK scalaire R'-R. C'est-à-dire encore, N0 sur L3, en remplaçant la somme discrète par une intégrale, 1 sur 2π cube, somme de 2/3K, VK carré et puissance IK scalaire R'-R'. En utilisant l'expression de VK carré, donnée dans le cours 98-99, page 7-12, vous rappelez que VK carré, c'est sinus hyperbolique carré de θk, et peut s'écrire sous la forme 1/2 de K2 plus K02 sur K2 fois K2 plus 2K02, moins 1, où K0 est un vecteur d'onde égal à 1 sur Ψ0, Ψ0 étant la longueur de relaxation égale à 1 sur racine de 8π rho à 0. On voit ainsi que G1 de S, où S est module de R-R', est de la forme N0 sur L cube plus K0 cube sur 2π cube, somme de D3 kappa, 1/2 de kappa fois kappa 2 plus 1 sur racine de kappa 2 plus 2 moins kappa, et puissance I kappa scalaire S sur Ψ0, où kappa c'est un vecteur sans dimension égal à K sur K0. On retrouve une courbe analogue à celle du transparent précédent, T18. La bosse a maintenant une amplitude de l'ordre de n moins n0 sur n, qui est de l'ordre de ρ à cube puissance 1/2, et sa largeur est déterminée par l'inverse de la largeur de la courbe kappa, qui apparaît sous le signe somme, ici, largeur qui n'est autre que la longueur de relaxation Ψ0. transparent C49, pour récapituler tous les résultats précédents, on peut donc dire finalement que dans un gaz parfait, très loin de la dégénérescence, les corrélations spatiales s'étendent sur une distance très faible, de l'ordre de la longueur d'onde de Broglie thermique. Quand on s'approche de la dégénérescence, cette longueur de cohérence augmente. Lorsque le condensé apparaît, ceci se traduit par une longueur de cohérence qui devient infinie, c'est-à-dire par un ordre à très longue portée. Enfin, dernier point, pour T très petit devant la température critique TC, la contribution du condensat est prépondérante et G1 de S ne dépend plus de S, sauf si des interactions font apparaître un pic d'amplitude de l'ordre de en valeur relative de ρ à cube puissance 1,5 et de largeur spatiale de l'ordre de la longueur de relaxation Xi0. Transparence T50. Après avoir étudié le cas d'un gaz parfait dans une boîte, je considère maintenant le cas de boson dans un piège harmonique et nous allons essayer de dénoncer un certain nombre de résultats généraux pour la fonction de corrélation G1 pour un tel système. Je vais me limiter pour simplifier à un oscillateur harmonique isotrope de fréquence oméga, de sorte que epsilon n est égal à n h bar oméga, où n est égal à nx plus ny plus nz. Nous repérons ici les énergies par rapport à l'énergie du vide. Le problème maintenant fait apparaître une nouvelle longueur, qui est la largeur spatiale de l'état fondamental, notée sigma égale racine carrée de h bar sur m oméga. En l'absence d'interaction, la matrice densité à un corps est diagonale dans la base n, et on est ramené au calcul d'éléments de matrice de la forme éléments de matrice entre r et r' de l'opérateur 1 sur z, où z est une fonction de partition, une constante, et puissance moins l bêta H0 chapeau, où H0 chapeau est l'opérateur hamiltonien à une particule. À la limite KBT, énergie thermique très grande devant H bar oméga, un calcul bien connu, voire par exemple le Landau-Lifshitz de mécanique statistique, donne l'élément de matrice entre R et R' de 1 sur Z et puissance moins bêta H0, égale 1 sur 2 pi à la puissance 3/2, 1 sur delta R au cube, que multiplie exponentielle de moins R plus R' sur 2 au carré sur 2 delta R2, exponentielle moins R moins R' au carré sur 2 xi 2, où delta R2 est égal à KBT sur M oméga 2, et xi 2 égale H bar 2 sur M KBT, c'est-à-dire encore la longueur d'onde de 2 Broglie thermique lambda T carré divisé par 2 pi. Transparent T51. Donnons maintenant rapidement les résultats du calcul de G1. Je rappelle que nous négligeons ici les interactions en particules. Lorsque le gaz est très peu dégénéré, quand n est très petit devant n critique, G1 de R R' et on peut se limiter au terme 1 sur z et puissance moins bêta H0 dans le développement en puissance de L, terme en puissance de z, L à puissance L, et on obtient G1 de R R' égale n élément de matrice entre R et R' de E puissance moins bêta 0, c'est la fonction que je vous ai donnée dans le transparent précédent qui est réécrite ici. Lorsque R' est égal à R, on obtient la densité spatiale, ρ de R, qui est égale à 1 sur 2 pi à la puissance 3/2, n sur delta R3, et puissance moins petit R2 sur 2 delta R2. On voit apparaître ici une gaussienne de largeur delta R égale KBT sur racine carrée de KBT sur M oméga 2. Lorsqu'on compare un tel résultat à celui du gaz dans une boîte, on s'aperçoit tout de suite que G1 de R, R' dépend et de R et de R' et non plus seulement de R moins R'. Il n'y a plus dans ce problème, évidemment, d'invariance par translation. G1 de R et R' dépend de R plus R' sur 2 sur des distances de l'ordre de delta R et de R moins R' sur des distances de l'ordre de xi. Ainsi, delta R apparaît comme la largeur du nuage d'atomes et xi comme la longueur de cohérence de l'ordre de la longueur d'onde de Broglie thermique lambda t. transparent P52. Quand n augmente, en restant très petit devant n critique, la longueur de cohérence augmente. On obtient ici une situation analogue à celle que nous avons trouvée dans le cas d'une case dans une boîte. En effet, G1 est une somme de fonctions analogues à celles données plus haut, mais avec des longueurs de cohérence qui croissent comme racine de 2, racine de 3, racine de 4. Quand n atteint n critique, G1 de RR' devient égal à G1 critique de RR', fonction obtenue en faisant z égale 1 dans la série en z. Quand n dépasse n critique, on voit apparaître à ce moment-là une contribution de l'état fondamental psi 0 de r du piège, et le calcul de la fonction de corrélation dans l'état de Fock n0 fait plus haut permet d'écrire g1 de rr' égale n0 psi 0 étoile de r psi 0 de r' plus g critique 1 de r et de r'. Ainsi, le condensat formé par les n0 atomes dans l'état psi 0 de r fait apparaître une nouvelle longueur de cohérence qui n'est autre que la largeur sigma égale racine de h bar sur m oméga de l'état psi 0. Enfin, quand n est très grand devant n critique, la contribution du condensat devient prépondérante et on a g1 de rr' à peu près égal à n psi 0 étoile de r psi 0 de r'. Nous voyons ainsi maintenant apparaître, lorsqu'on s'intéresse à des bosons piégés dans un puits, plusieurs longueurs, et je vais dans le transparent T53 essayer de comparer un peu ces diverses longueurs. Il y a tout d'abord la longueur de cohérence du condensat, sigma 0 égale racine de h bar sur m oméga, la longueur d'onde de Broglie thermique, lambda t égale h bar racine de 2 pi sur mkbt, et l'extension du nuage thermique, delta r égale racine de kbt sur m oméga 2. Comparons tout d'abord lambda t à sigma 0. Le rapport lambda t sur sigma 0 est égal à racine carrée de 2 pi h bar oméga sur kbt. Si nous supposons que h bar oméga est très petit devant kbt, un tel rapport est très petit devant l'unité. Je vous rappelle un résultat important sur lequel nous avons beaucoup insisté l'an dernier, c'est que la condensation de Bose-Einstein apparaît pour des températures critiques telles que kbt est beaucoup plus grand que l'écart entre niveau d'énergie dans le puits. Donc l'hypothèse kbt sur h bar oméga est tout à fait réaliste. Le condensat donc fait apparaître un ordre à longue portée beaucoup plus grand sur des distances beaucoup plus grandes que la longueur d'onde de Broglie thermique puisque sigma 0 est très grand dans lambda t. Comparons enfin sigma 0 et delta r. On a de même sigma 0 sur delta r égale racine carrée de h bar oméga sur kbt, qui est lui aussi plus petit que 1. Finalement, ces trois longueurs se placent de la manière suivante. D'abord la plus petite lambda t, beaucoup plus petite que sigma 0, longueur de cohérence du condensat, lui-même, elle-même beaucoup plus petite que delta r, largeur du nuage thermique. Transparent T54. J'aborde maintenant le dernier paragraphe du cours d'aujourd'hui, qui consiste maintenant à étudier les fonctions de corrélation d'ordre supérieur G2 et G3. Ces fonctions sont importantes pour étudier les corrélations de densité et les fluctuations de densité des atomes bosoniques. Avant d'entreprendre un tel calcul, il faut tout d'abord mentionner une difficulté qu'on rencontre à ce stade. Tous les calculs que nous avons faits jusqu'ici, tous les calculs d'équilibre, ont été faits en utilisant l'ensemble grand canonique, qui est très commode mathématiquement, car en effet, il conduit à une factorisation de l'opérateur de densité en l'absence d'interaction. Il conduit donc à des calculs très faciles, en absence d'interaction. Par contre, un tel ensemble grand canonique prédit des fluctuations très importantes du nombre N0 de particules condensées. Donc, un tel calcul, lorsqu'on l'applique aux expériences faites sur des bosons piégés où n est fixé, en l'absence de perte, semble un petit peu pas très correct. Il faudrait en effet plutôt utiliser, pour décrire ces expériences, l'ensemble canonique où le nombre de particules totales est fixé, comme c'est le cas dans les expériences. Simplement, les calculs faits avec l'ensemble canonique sont beaucoup plus complexes. Attention, je me suis ici concentré sur le nombre N0 de particules condensées. Si on s'intéresse aux prédictions sur les valeurs moyennes et non pas sur les fluctuations, sur les valeurs moyennes AK croix AK, on peut montrer que ces prédictions varient peu suivant qu'on utilise l'ensemble canonique et l'ensemble grand canonique, de sorte que le calcul fait plus haut sur la fonction de corrélation d'ordre 1, G1, bien sûr, lui demeure valable. Transparente T55. Pour résoudre la difficulté précédente, la solution que nous allons adopter ici est la suivante. Pour un système condensé, c'est-à-dire lorsque le nombre de particules est beaucoup plus grand que N critique, on n'utilisera pas l'ensemble grand canonique pour calculer G2 et G3. On utilisera plutôt la description du condensat par un état de Fock, N0. Et nous avons fait un tel calcul plus haut dans le premier paragraphe du cours d'aujourd'hui. Notons en passant que le calcul de G1 est le même à la limite N très grande devant N critique que l'on utilise un état de Fock ou l'ensemble grand canonique. Il suffit de comparer les résultats obtenus plus haut avec les deux calculs. Ce qui montre bien que pour les valeurs moyennes et non pas les fluctuations, l'ensemble canonique ou l'ensemble grand canonique ou la description par un état de Fock donne des résultats tout à fait comparables. Donc, pour un ensemble condensé, pour un système condensé, on utilisera la description par un état de Fock. Par contre, pour un système très peu dégénéré, N très petit devant N critique, on peut montrer que les prédictions des ensembles canoniques et grands canoniques diffèrent très peu, et je continuerai à utiliser l'ensemble grand canonique, plus commode mathématiquement, pour calculer G2 et G3. Transparent T56. Les calculs que nous allons rencontrer se simplifient considérablement lorsqu'on utilise ce qu'on appelle le théorème de Wick. Précisons, je me contenterai ici de rappeler les résultats d'un tel théorème. Précisons les hypothèses. On suppose qu'on s'intéresse à des bosons sans interaction d'une part, et d'autre part que l'ensemble, l'opérateur densité du système correspond à la description grand canonique, c'est-à-dire est donnée par rho chapeau égale 1 sur Zg, la grande fonction de partition, exponentielle moins bêta, h opérateur moins mu n opérateur. Qu'on peut encore écrire 1 sur Zg, produit sur tous les états individuels k, d'énergie epsilon k, de e puissance moins bêta, ak croix ak, que multiplie epsilon k moins mu. Le résultat du théorème de Wick est alors le suivant. Si on prend la valeur moyenne dans rho chapeau d'un produit de quatre opérateurs A alpha croix, A bêta croix, A gamma, A delta, cette valeur moyenne d'un produit de quatre opérateurs s'écrit comme une somme de produits de valeur moyenne de deux opérateurs chaque fois. A alpha croix, A gamma, valeur moyenne, que multiplie A bêta croix, A delta, valeur moyenne, plus A alpha croix, A delta, valeur moyenne, que multiplie A bêta croix, A gamma, valeur moyenne. Voilà un premier résultat. Si maintenant on considère un opérateur, la valeur moyenne d'un opérateur faisant intervenir 6 opérateurs, 3 de création, 3 d'annihilation, alpha croix, A bêta croix, A gamma croix, A delta, A epsilon, A zeta, on voit apparaître une somme de 6 termes. Chacun de ces 6 termes est en lui-même le produit de 3 valeurs moyennes impliquant chaque fois 2 opérateurs, un opérateur de création et un opérateur d'annihilation. Voici ces 6 termes qui sont écrits. On voit qu'il faut prendre à ce moment-là le produit des valeurs moyennes de tous les produits possibles d'un opérateur de création par un opérateur d'annihilation et ajouter tous ces produits. Suivant que j'ai prendre la valeur moyenne de 4 opérateurs ou de 6 opérateurs, j'ai factoriel 2 égale 2 ou factoriel 3 égale 6 termes dans la somme. Le théorème de Wick peut évidemment être généralisé à des fermions et à des ordres autres que l'ordre normal dans les produits d'opérateurs. Transparent T57. Regardons alors maintenant le calcul de G2RR'. Et rappelons, si vous voulez bien, les expressions de l'opérateur psi croix de R, qui est somme sur alpha de psi alpha étoile de R, opérateur alpha croix, et de psi de R, somme sur bêta de psi bêta de R, opérateur à bêta. G2 est la valeur moyenne d'un produit de 4 opérateurs psi, 2 psi croix et 2 psi. En remplaçant les psi croix et psi par leur expression en fonction des A croix et A, et en sortant les fonctions nombres qui sont des nombres, de l'élément de matrice, de la valeur moyenne, pardon, on voit que la valeur moyenne de psi croix de R, psi croix de R prime, psi de R prime, psi de R, est égale à la somme sur alpha beta gamma delta de psi alpha étoile de R, psi bêta étoile de R prime, psi gamma de R prime, psi delta de R, la valeur moyenne de alpha croix, a bêta croix, a gamma, a delta. D'après le théorème de Wick, cette valeur moyenne d'un produit de 4 opérateurs est une somme de produits de valeur moyenne de 2 opérateurs chaque fois, et en réintroduisant les fonctions d'onde dans ces valeurs moyennes, on voit alors immédiatement que G2 de RR' est égal à psi croix de R, psi de R' valeur moyenne, que multiplie psi croix de R', psi de R valeur moyenne, plus psi croix de R, psi de R valeur moyenne, que multiplie psi croix de R', psi de R' valeur moyenne, c'est-à-dire encore G2 de RR' égale G1 de RR' en modulo carré, plus G1 de RR, G1 de R' R'. En divisant par G1 de RR, G1 de R' R', on obtient la fonction de corrélation d'ordre 2 normalisé, petit G2 de RR', qui est égal à 1 plus G1 de RR' en modulo carré, divisé par G1 de RR, G1 de R' R', c'est-à-dire encore G2 de RR' égale 1 plus G1 de RR' en modulo carré. On retrouve ici le résultat que nous avons donné plus haut pour les fonctions de corrélation d'un champ optique gaussien pour la fonction de corrélation normalisée d'ordre 2. En particulier, on voit que G2 RR est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Transparent T58, les variations de G2 avec R-R' noté égal à F sont données sur cette figure. On voit, on obtient une courbe qui décroît de G2 de G2 RR égale à 2 à G2 de RR' avec R-R' très grand devant lambda T qui est égal à 1, la décroissance se faisant sur une échelle de longueur de l'ordre de lambda T, la longueur d'onde de Broglie thermique. Passons maintenant au calcul de G3 de RR' R seconde, c'est-à-dire de la valeur moyenne de psi croix de R, psi croix de R', psi croix de R seconde, psi de R seconde, psi de R', psi de R. En utilisant le théorème de Wick, on voit apparaître une somme de 6 termes, chacun de ces 6 termes étant un produit de 3 valeurs moyennes impliquant chacune 2 opérateurs, un psi croix et un psi. Et on voit apparaître donc une somme de 6 termes faisant intervenir des produits de 3 fonctions G1 dont les arguments sont soit RR, soit R'R', soit R seconde, R seconde, soit RR', soit R', seconde, soit RR seconde. On a en tout 6 termes. Transparent T59. Si on normalise une telle fonction en la divisant par G1 de RR, G1 de R'R', G1 de R seconde, R seconde, on voit que petit g3 de r, r', r seconde est égal à 1 plus module de g1 rr' au carré plus module de g1 r' r seconde au carré plus g1 de module de g1 r seconde r au carré plus deux parties réelles du produit g1 rr', g1 r' r seconde, g1 r seconde r. Si l'on fait dans l'expression précédente R égale R' égale R seconde, tous les G1 sont égaux à 1, et on trouve à ce moment-là, pour G1, la somme de 6 termes égaux tous à 1, on trouve donc que G3 de R, R, R est égal à factoriel 3, c'est-à-dire à 6. Si maintenant, l'un des trois points RR' R seconde va vers l'infini, c'est-à-dire si R moins R seconde est très grand dans lambda T, et si R' moins R seconde en module est très grand dans lambda T, on peut négliger G1 de R, R seconde et G1 de R' R seconde qui tendent vers 0, de sorte que G3 de R, R' R seconde est équivalent lorsque R seconde tend vers l'infini à G2 de R, R', c'est-à-dire encore à 1 plus G1 de R, R' en modulo carré.